Bonjour amis tout Bordeaux-Nautes, c'est Véro. Nous sommes le 15 novembre 2019 et c'est avec grand plaisir que les micros d'argent vous retrouvent à la fête de l'économie sociale et solidaire organisée par l'accorderie Canéjean et Pays des Graves. Une quatrième édition qui a pour thème l'engagement associatif, vecteur de solidarité. C'est à la bergerie du Cournot de Canéjean, bâtiment de caractère entouré de vignobles, que l'accorderie a convié plusieurs associations pour une table ronde animée par Madame Aurélie Piette, économiste, chercheuse et auteure d'un livre pour tout comprendre de l'économie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Retrouvons Bernadette, l'envoyée spéciale de l'équipe des micros d'argent, pour une interview exclusive.
Chers amis tout Bordeaux-Nautes, nous voici maintenant après la table ronde qui a été organisée dans le cadre de cette journée de l'ESS. Je vais donc interviewer Madame Aurélie Piette qui va venir dans quelques instants. Aurélie Piette, bonjour.
Bonjour.
Donc nous vous recevons pour cette interview après la table ronde qui vient d'avoir lieu dans le cadre de notre journée d'économie sociale et solidaire. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander quelle est votre définition à vous de l'économie sociale et solidaire.
Alors l'ESS, pour moi, l'économie sociale et solidaire est un modèle alternatif à notre système dominant, notre système capitaliste dominant. Et je le définirais comme ayant en fait pour projet, pour objectif premier de rendre service à ses membres. Donc c'est un système économique qui met au centre de ses préoccupations vraiment l'humain. Et comme je vous le disais, c'est une alternative également à notre modèle dominant et qui est beaucoup plus inspirant que notre modèle traditionnel, parce que notre modèle traditionnel cherche et a pour objectif premier d'accumuler le profit, de créer une richesse uniquement quantitative, alors que l'ESS nous propose véritablement de créer une richesse qualitative, une richesse sociale, une richesse sociétale, voire même une richesse environnementale. Donc c'est pour moi un système, un modèle qui est totalement inspirant à l'heure actuelle, compte tenu des enjeux du XXIe siècle, de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources et de disparition des espèces.
Au cours de cette table ronde, on a vu combien la pratique du don de soi, du don de son temps, était importante dans l'implication des participants à ces associations de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, pour vous, dans l'économie sociale et solidaire, la pratique du don est un facteur de richesse essentiel ?
Oui, complètement. C'est un facteur de richesse, cette richesse qualitative qui n'est pas valorisée selon moi et qui devrait d'ailleurs être valorisée, qui devrait être comptabilisée, qui devrait faire partie même de nos indicateurs économiques. Si on veut basculer et changer de paradigme véritablement, il faut absolument qu'on comptabilise tout ce qu'apportent les hommes pour aider, pour contribuer à ce que les hommes se sentent effectivement mieux.
Et au cours de cette table ronde, en fin de débat, une personne dans le public a dit à un moment donné que, effectivement, l'économie sociale et solidaire était quelque chose d'essentiel, mais en même temps que si jamais il n'y avait pas un changement d'économie, ce serait un puits sans fond. Alors, quels sont les leviers de pouvoir de ces systèmes alternatifs qui existent, hein, qui sont présents sur le territoire et dont beaucoup de monde, je ne sais pas exactement combien de gens participent sur le territoire à cette population créative. On appelle maintenant des gens qui ont ces valeurs sociales et solidaires comme une population qui a été répertoriée.
Alors, pour reprendre le début de votre analyse et de votre question, il y a un développement, on voit vraiment se développer des modèles alternatifs à notre système capitaliste. L'économie sociale et solidaire en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, on parle d'économie contributive. Donc, il y a tout un tas de modèles comme ça, alternatifs, qui sont en train de se développer. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Sauf que si le contexte global reste le même, si l'objectif principal, le moteur de notre économie, le moteur de notre société reste l'argent, reste le profit à court terme, il n'y a pas de changement profond, il n'y a pas de rupture profonde. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une rupture profonde, donc il faut qu'on refixe un nouvel objectif au niveau global, au niveau sociétal, au niveau des pouvoirs publics. Les économistes aussi sont évidemment impliqués dans cette transition, et les entreprises aussi sont un formidable levier de transformation. Et tous ces gens-là doivent basculer de paradigme et avoir pour objectif premier le bien commun, avoir pour objectif premier la prospérité, avoir pour objectif premier le qualitatif. Et le quantitatif et l'argent doit être une condition, mais pas une fin en soi, pour arriver à cela. Et la bonne nouvelle, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'apparition des créatifs culturels, une des bonnes nouvelles, c'est que nos valeurs sont en train de silencieusement de changer et d'aller dans le bon sens. On s'oriente davantage vers des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, des valeurs de qualité de vie. Et ça a été étudié par un sociologue, Paul Rey, qui a vu émerger une nouvelle catégorie de population qu'on appelle les créatifs culturels. Ces créatifs culturels veulent vraiment mettre en place de nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de fonctionnement en dehors de notre société de consommation. Ils ont vraiment des préoccupations centrées sur l'homme, centrées sur l'environnement, et ont des valeurs de qualité de vie. Et ça serait 35% de la population occidentale qui serait en train de changer de valeur pour aller vers des valeurs de qualité de vie, de solidarité. Certains sociologues parlent même de 2 milliards de personnes. Donc c'est plutôt positif de voir qu'il y a ce mouvement de fond qu'on ne perçoit pas finalement, mais qui est bien là, une espèce de vague de fond qui est en train de nous dire que voilà, on aspire à d'autres valeurs plus immatérielles et sans doute plus essentielles.
Alors j'aimerais revenir sur la place de l'argent. Par exemple, dans l'épicerie solidaire, le prix est fixé en fonction du revenu de la personne. Donc la denrée n'est pas payée de la même manière selon les revenus dont on dispose. Des supermarchés coopératifs existent. Il y en a un à Bègles. Les premiers étaient sur Paris. C'était le projet La Louve. Et on voit que les gens, il y a une volonté de reprendre en main son alimentation, de s'impliquer, de donner un sens aussi aux relations d'échange. Il y a des scopes aussi, enfin il y a énormément de choses qui se passent. Mais cette façon de modifier la place de l'argent, est-ce que ça va être compatible? Comment est-ce possible de faire une transition entre la macroéconomie et puis ces systèmes qui privilégient plutôt le local, les circuits courts?
Effectivement, aujourd'hui, c'est le profit qui est le moteur de notre économie. L'argent, ça reste dans notre société, globalement, notre objectif principal, notre priorité. Et les gens qui sont sur le terrain dont vous me parlez, dans l'économie locale, qui ont envie de participer à cette économie locale, ne mettent pas justement précisément l'argent au centre de leurs préoccupations. Par contre, c'est un outil d'ailleurs qui n'est pas négligeable et qui est utile et qui reste toujours intéressant. C'est comme tout dépend de la place qu'on lui confère, et il doit être au service de la qualité, il doit être au service de l'humain, au service de la nature, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Et ce qui est intéressant, et je crois qu'il y a un travail à faire pour repenser demain le rôle de la monnaie, il y a des travaux de Bernard Lieter très intéressants qui parlent de réinventons la monnaie sur le développement en particulier des monnaies complémentaires qui ne remplaceraient en aucun cas notre monnaie nationale ou la monnaie internationale, mais par contre une monnaie complémentaire sur laquelle on ne peut pas spéculer, qui reste locale, qui ne peut pas sortir d'une certaine zone géographique et qui justement permet de faire circuler cet argent et de pouvoir faire vivre l'économie en local. On utilise uniquement cet argent dans une zone géographique délimitée. Elle ne peut pas s'échapper dans les grandes entreprises multinationales. Elle reste concentrée sur le territoire. Et encore une fois, il n'y a aucun intérêt à la garder chez soi parce qu'elle n'a aucune valeur. C'est une monnaie qui doit circuler. Donc ça, c'est déjà une nouvelle façon de penser la monnaie qui se développe de plus en plus et qui est plutôt d'ailleurs une excellente nouvelle.
Je voulais aussi vous questionner sur le revenu universel d'activité. Alors, c'est un débat qui a lieu. Il y a des gens qui sont partisans avec cette façon de concevoir un revenu universel qui serait donc octroyé indépendamment de l'insertion professionnelle, de son âge. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça rentre dans cette modification du rapport à l'argent ?
Oui, si on veut une transformation profonde dans notre société, c'est aussi il faut qu'on on transforme notre façon de voir les choses, notre rapport aussi au travail. Comme s'il fallait absolument, oui, avoir un travail difficile pour gagner de l'argent. L'idée du revenu universel se pose parce que déjà on voit que le numérique, la robotique remplace le travail de plus en plus. Donc il y a d'ailleurs de moins en moins de gens qui sont recrutés dans le milieu industriel. Donc des emplois sont à créer, oui, mais en tout cas il y a une disparition importante dans le secteur industriel d'emplois. Donc suite à ça, la question se pose, est-ce que finalement on ne devrait pas verser un revenu universel, et un revenu universel où finalement chacun contribuerait peut-être à sa manière, en fonction de ses compétences, à apporter quelque chose à la société, quelque chose d'utile. Et ça a été d'ailleurs questionné dans l'économie contributive. L'économie contributive, c'est l'idée selon laquelle Wikipédia en est un bon exemple, les logiciels libres aussi. Ce sont des gens qui participent à des projets comme ça pour lesquels ils ont une appétence, une compétence et une motivation. Et en fait, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus efficaces. Et on s'imaginait, ben, pourquoi pas verser à des gens un revenu pour leur laisser du temps de libre pour choisir des projets pour lesquels ils pourraient intervenir, où ils se sentiraient vraiment utiles, inspirés. Et motivé, il y a une vraie contribution, c'est une vraie richesse qualitative que d'ouvrir la porte comme ça librement à des gens pour qu'ils apportent les choses positives à la société.
Et notamment dans le domaine de la transition écologique, énergétique, il y a énormément de métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain, ou disons des activités, et effectivement ça pourrait libérer beaucoup de gens dans leur capacité de création et de compétences s'ils avaient une sécurité au niveau du salaire.
Complètement.
Alors pour clore cette interview, je voudrais quand même recueillir vos impressions sur les temps forts que vous avez repérés, puisque vous avez animé cette table ronde.
Les temps forts, j'ai trouvé que c'était le témoignage qui marquait l'importance de la solidarité entre les associations de l'économie sociale et solidaire. Comme quoi c'était important, fondamental aussi de se retrouver entre ces associations pour œuvrer ensemble.
J'ai relevé aussi l'importance, bien sûr, de l'accompagnement financier, mais surtout de l'accompagnement humain. Et que finalement, il ne fallait pas uniquement satisfaire des besoins financiers, il fallait aussi satisfaire des besoins humains, mais des besoins immatériels d'estime de soi aussi, qui étaient tout aussi importants que l'accompagnement matériel et financier. Ensuite, c'est le témoignage de chacun, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parce qu'ils souffrent d'un manque de personnes, de bénévoles, d'accompagnants, parce qu'il y a tellement de demandes. J'ai noté également le témoignage sur l'importance, ou du moins la collaboration des pouvoirs publics aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc oui, il y a une collaboration entre les citoyens de terrain et entre les acteurs publics.
Il y a aussi la transitivité que permet le don, c'est-à-dire on vous donne quelque chose, mais vous ne le donnez pas, vous ne le rendez pas à la personne, mais vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour l'association. Et donc ça permet aussi de garder une forme de dignité par rapport à la personne qui est aidée. Et il n'y a pas ce sentiment de dette aussi dans ce genre d'association où on essaie de redonner une dignité à la personne. Votre premier titre, si je ne m'abuse, c'était « Le cri du cœur de l'Homo economicus ». Alors, vous pourriez nous en dire deux mots pour conclure notre interview ?
Donc vous êtes très bien renseigné, effectivement. C'est le cri du cœur de l'Homo economicus, parce que c'est mon cri du cœur, en fait. Cet ouvrage, c'est un peu l'histoire de ma vie, l'histoire de ma réflexion depuis que je suis au lycée, depuis que j'ai commencé un peu à comprendre comment fonctionnait notre système économique. Je me disais, mais mince, on peut quand même faire mieux que ça. L'être humain est intelligent, je suis sûre qu'on peut trouver des solutions autres. On peut avoir pour objectif autre chose que l'argent. L'humain doit être remis au centre, et l'environnement aussi. Il faut absolument repenser tout ça. Donc, voilà, c'est le fruit de mon parcours personnel, c'est mon cri du cœur pour essayer de trouver une alternative à notre société actuelle. Et voilà, c'est le fruit de mes recherches qui sont dans ce livre, et c'est mon cri du cœur pour dire aussi qu'il existe donc quelque chose, que j'ai trouvé une réponse à ce questionnement. Il existe une alternative qui demande à ce qu'il y ait une nouvelle vision du monde, qu'on ait un nouveau regard sur le monde, qu'on ait une réelle approche nouvelle.
Merci beaucoup Aurélie Piette.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Merci. Chers amis tout Bordeaux-Notes, et bien maintenant, à vous de réfléchir, et à très bientôt pour une nouvelle pépite radio sur toutbordeaux.net. Au revoir.
Et oui, nous concluons donc notre émission en vous remerciant pour votre fidélité. Chers amis tout Bordeaux-Notes, l'équipe des Micros d'Argent vous encourage à partager cette émission et pourquoi pas à participer au changement de ce monde. Il en a besoin. Merci à notre envoyé spécial et à son invité. Merci à Laurent pour ses conseils et sa technique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine pépite radio solidaire. D'ici là, restez connectés sur toutbordeaux.net.
Bye bye.
Bye.
Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.